Bamako et à Ouagadougou, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, nous ouvrirons par la lutte contre la désertification dans le Sahel. Nous serons ensuite au Burkina pour notre dossier.
Prenez le Burkina Faso aujourd'hui, sans le coton, qu'est-ce que l'économie devient? Vous allez vous rendre compte qu'on va avoir des problèmes énormes.
Le Burkina Faso est devenu le plus grand pays producteur de coton en Afrique. Quels sont les impacts sur la vie des Burkinabés? Reportage de Zoumana Wanogo à suivre. Détour par le Mali pour notre rubrique santé avec un nouveau centre de santé maternelle et infantile. Et détour par le Mali également pour notre rubrique culture avec le musicien Soumaïla Kanouté. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé aujourd'hui que les islamistes somaliens ne sont pas les auteurs des attaques qui viennent de frapper la ville de Mpeketoni et qui ont fait plus de 60 morts en deux jours. À l'occasion d'une adresse à la nation ce mardi, Uhuru Kenyatta a accusé des réseaux politiques locaux d'être à l'origine des attaques de Mpeketoni. Le groupe islamiste Al-Shabaab a pourtant revendiqué la responsabilité des attentats qui ont fait quelques 50 morts à Mpeketoni dimanche et au moins 15 autres victimes dans un village voisin lundi. Les États-Unis ont qualifié les attaques d'odieuses et les ont condamnées dans les termes les plus vigoureux. Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir arrêté plus de 450 personnes qui voyageaient entre le nord et le sud du pays. Elles seraient, selon la presse locale, soupçonnées de liens avec le groupe islamiste Boko Haram Bagasikura.
Oui, selon le général Olajide Laleye, porte-parole de l'armée, 462 personnes, dont 8 femmes, ont été arrêtées dans l'état d'Abia, dans le sud, hier matin. Selon lui, ils étaient à bord de 36 autocars et voyageaient entre les états de Bauchi et Jigawa, dans le nord, vers la ville de Port Harcourt, au sud. D'après l'AFP qui révèle cette information, le général Laleye n'a pas voulu se prononcer sur le motif des arrestations avant la fin des enquêtes. Mais la presse nigériane cite plusieurs hommes politiques du sud du pays pour qui ces nouvelles arrestations massives sont en relation avec Boko Haram, dont l'insurrection sanglante a fait plusieurs milliers de morts ces 5 dernières années.
Du nouveau sur l'attaque contre le consulat américain de Benghazi en Libye, les États-Unis ont arrêté un suspect clé lié à l'assaut du 11 septembre 2012. Des soldats américains en coopération avec la police ont capturé Ahmed Abou Katala, a précisé le porte-parole du Pentagone. Dans un autre développement, selon l'AFP, l'armée libyenne a interdit la circulation de voitures de minuit à 6 heures du matin pour tenter de réduire les violences à Benghazi. Benghazi est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les islamistes et les forces du général dissident Khalifa Haftar.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À Genève aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies a condamné les actions récentes en Irak des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Lionel Gaïma.
Ban Ki-moon a d'abord demandé au Premier ministre Nouri al-Maliki de repenser sa gouvernance pour calmer les tensions communautaires. Il a exprimé son inquiétude face à la dégradation rapide de la situation. Il a condamné les attaques, meurtres de civils et le kidnapping de diplomates par les islamistes. Washington a annoncé le déploiement de 275 soldats américains pour protéger l'ambassade à Bagdad. Sur le terrain, les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant ont pris contrôle des pans entiers du territoire. Aujourd'hui, ils ont lancé une attaque à Bakouba, à 60 km au nord-est de Bagdad, mais les autorités disent avoir repoussé l'assaut. Dans le même temps, les djihadistes de la branche syrienne d'Al-Qaïda ont pris le contrôle d'Al-Qaïm, un poste frontière entre l'Irak et la Syrie.
L'Iran et le groupe 5+1 ont repris leurs négociations à Vienne, en Autriche. Ils essayent de trouver un accord permanent avant la date butoir du 20 juillet. Des entretiens le mois dernier n'ont pas abouti, les parties ne pouvant s'entendre sur les détails d'un projet d'accord. Nouvelle frappe aérienne de l'armée pakistanaise dans le nord-ouest du pays, le long de la frontière afghane. Au moins 15 militants présumés ont été tués ce mardi. C'est ce qu'on indique de sources officielles. Le bilan de l'offensive lancée depuis dimanche dans le Waziristan nord s'élève maintenant à 187 morts. La suite de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à Sahel Plus et nous ouvrons sur la journée mondiale contre la désertification célébrée aujourd'hui. Selon l'ONG SOS Sahel, 1 milliard de personnes sont menacées par la désertification dans le monde, dont 180 millions de Sahéliens, car 30% de leurs terres sont sévèrement dégradées. Nous avons demandé à Rémi Emmerich, délégué général de l'ONG SOS Sahel, si la désertification était toujours l'un des plus grands défis pour la région sahélienne. Rémi Emmerich.
En effet, depuis une trentaine d'années, puisque avec le réchauffement climatique, mais aussi les dérèglements, la désertification s'est accélérée, également du fait de la croissance démographique et des pratiques culturelles qui n'ont pas été réellement améliorées, quoi.
La ceinture verte au Tchad a fait énormément parler. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des progrès aujourd'hui dans la région sahélienne ?
Les efforts doivent être surtout accentués sur la réhabilitation des systèmes de production agricole et la ceinture verte, nous sommes contents que les objectifs de la ceinture verte, la grande muraille verte hein, d'ailleurs, se situent sur, on va dire, cette perspective. On ne peut pas, l'idée n'est pas de constituer un mur face au désert, mais c'est de redensifier dans l'ensemble des États du Sahel le couvert végétal, de manière à créer une agriculture durable, à freiner l'érosion et ensuite à recréer des conditions de production qui sont favorables de manière à assurer la sécurité alimentaire des populations.
C'est évidemment la première menace, la sécurité alimentaire du Sahel. Est-ce que vous êtes inquiet à l'approche de la période de la soudure ?
Eh bien, tous les ans, nous sommes inquiets à l'approche de la période de soudure parce que chaque année, il y a des régions sahéliennes qui sont victimes soit de sécheresse, soit d'inondation, ce qui est parfois un peu paradoxal, hein, puisque dans certaines régions du Sahel, il peut pleuvoir 100 ou 200 mm d'eau en une pluie et il n'y a rien pour retenir. Donc, il y a des catastrophes, il y a des victimes des inondations. Cette question-là est toujours critique pour les populations, mais justement, il faut investir pour diversifier les systèmes de production. Il faut permettre aux agriculteurs de pouvoir produire dans des conditions qui sont plus favorables. Et cette année, c'est aussi l'année de l'agriculture familiale, sachant que 90% de la production agricole en Afrique vient de l'agriculture familiale. Il faut permettre aux agriculteurs d'investir durablement sur leurs terres, à la fois en ayant accès au foncier, en réintégrant l'arbre dans le milieu et aussi en intégrant par une approche plus systémique, c'est-à-dire tous les apports de l'élevage en ayant des pratiques aussi qui sont meilleures par rapport aux façons culturelles, par rapport au choix des variétés, par rapport à la diversification des productions, de manière à rendre les agricultures paysannes plus résilientes. C'est-à-dire qu'elles soient plus à même capables aussi de faire face aux crises, parce que les crises, elles peuvent arriver chaque année. Ça fait partie de la vie des Sahéliens, malheureusement.
Rémi Emmerich, délégué général de l'ONG SOS Sahel. Avec ses 730 000 tonnes de production annuelle de coton, le Burkina Faso a pris la tête des pays producteurs de coton africains. Ce fort développement économique a-t-il eu des répercussions sur la vie des Burkinabés ? Élément de réponse avec le reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Zoumana Wonogo.
La filière coton au Burkina bénéficie très souvent des subventions de l'État. Pour la campagne qui vient de s'écouler, le gouvernement burkinabé a délié le cordon de la bourse à hauteur de 10 milliards de francs CFA pour subventionner les intrants. Pourquoi toutes ces largesses de l'État envers ce secteur ? Écoutons les explications de Jean-Paul Sawadogo. Il est le directeur général de la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina.
Quand vous prenez l'agriculture américaine, elle est subventionnée à hauteur de 75%. Lorsque nous aidons les producteurs à pouvoir acquérir des intrants à un coût accessible, ils disent « Ah non, il faut les laisser à eux-mêmes ». Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour distribuer en un an, au niveau de la zone Sofitex, 120 milliards de francs CFA comme revenu aux producteurs, pour avoir mis 10 milliards. C'est apprendre ou à laisser. C'est mieux de faire comme ça que de les laisser, et puis à la fin de la campagne, les gens sont affamés. Tu vas faire quoi ? Tu oublies de trouver les solutions pour leur donner quelque chose à manger. 22 céréales, la prise sociale, quoi, etc. Ce qu'on dépense, c'est énorme. Mais ça, toute agriculture est subventionnée.
Prenant la question des subventions au rebond, Jonas Bayoulou, Le secrétaire général de la Sofitex donne ici les détails sur les impacts macro et microéconomiques du coton. On écoute.
Prenez le Burkina Faso aujourd'hui. Sans le coton, qu'est-ce que l'économie devient? Vous allez vous rendre compte qu'on va avoir des problèmes énormes. Du point de vue de la puissance publique, ils ne regardent pas. Je mets 10 milliards pour partager 120. Ils ne regardent pas l'impact d'une dépense immédiate, mais ils regardent l'impact global sur toute l'économie, sur tous les agents économiques. On voit bien tout l'intérêt et toute l'importance du coton pour notre économie. Maintenant, au plan microéconomique, je vais vous prendre l'exemple sur mon département d'origine, Tiriba. Cette année, il a été produit là-bas 14 352 tonnes. Mais l'argent qui a été payé en net entre les mains des producteurs du département, c'est 3,45 milliards. Mais que feraient-ils ces producteurs-là qui pourraient leur procurer ce type de revenus? Et quand on a vérifié, le taux de crédit était autour de 32%. Quand on a fait un petit calcul sur les prix de 235, c'est comme s'ils avaient utilisé uniquement 13 francs le kilo du coton pour payer le prix des intrants. La viabilité microéconomique, là, c'est une question d'organisation et d'efficacité de chaque producteur. Mais si vous prenez ceux qui ont 200 kilos à l'hectare, 300 kilos à l'hectare, il vous dira que le coton n'est pas fiable.
Nous avons rencontré Marie Wedrogo. Elle est productrice de coton. Elle dit ici l'importance du coton dans l'économie familiale.
La culture du coton, c'est très bien parce que ça nous aide beaucoup dans les familles. Ça nous aide à payer beaucoup de choses, à payer la scolarité des enfants et les moyens de transport. Nous sommes contents de cultiver le coton parce que ça nous aide beaucoup, beaucoup.
Zoumana Ounogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Ouagadougou, où vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Terminons l'émission par le Mali. D'abord pour notre rubrique santé, 2010-2014, le projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile arrive à terme. Un projet financé par les États-Unis à travers l'USAID. Ce projet a pour ambition de réduire la mortalité néonatale et infantile et un projet mis en œuvre dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Kassim Traoré a assisté à la cérémonie d'ouverture de ce centre.
Le projet intégré de santé maternelle, néonatale, infantile est l'un des principaux programmes du Bureau de santé internationale de l'USAID pour la santé maternelle, néonatale et infantile. Il vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et l'accélération de l'objectif 4 des OMD. La cérémonie du jour célèbre les succès et les leçons apprises au cours de sa mise en œuvre au Mali. Anita Gibson, directrice adjointe du projet.
En tant que projet global, nous sommes engagés à assurer que les enseignements tirés de l'expérience du Mali soient partagés aussi bien au niveau pays qu'au niveau des partenaires au niveau international afin d'autres puissent bénéficier et apprendre de nos défis et nos succès.
Au cours des 4 années qu'aura duré le projet, de 2010 à 2014, des résultats satisfaisants ont été enregistrés dans les régions d'intervention qui sont Kaï, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Lamine Diarra, représentant du ministre de la Santé.
Le projet MTIP a fait face aux réalités du moment par une approche mettant l'emphase sur le couple mère-enfant en intégrant les interventions et les ressources pour une synergie d'action. C'est ainsi que dans le cadre du consortium MTIP, Save the Children International a appuyé la conception et la mise en œuvre des interventions prioritaires à haut impact en matière de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant sur toute la pyramide sanitaire du pays, y compris le nouveau village.
Exécuté par Save the Children et financé à plus de 8 milliards de francs CFA par le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID, les résultats du projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile sont appréciables. Marie-Beth Léonard, ambassadeur des États-Unis au Mali.
Ces résultats montrent une nette amélioration de certains indicateurs vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, ce qui est encourageant. Le projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile arrive certes à son terme, mais je vous donne l'assurance que notre agence prend les dispositions nécessaires pour qu'aucune rupture ne soit constatée dans sa stratégie d'intervention dans le domaine de la santé.
Ce projet qui a bénéficié de l'adhésion des différentes communautés a non seulement facilité le rapprochement des soins aux personnes, mais aussi augmenter le nombre de travailleurs qualifiés dans le domaine de la santé au Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Et nous sommes toujours au Mali pour notre rubrique culture, pour une rencontre avec le musicien mandingue Soumaïla Kanouté. Issu d'une famille de griots, Soumaïla Kanouté préfère, lui, se différencier. Pour lui, il existe une grande différence entre un griot et un artiste. Soumaïla Kanouté.
Et moi, je suis griot, mais je fais le rôle des artistes, je ne fais pas le rôle des griots. Parce que le rôle des griots, quand tu es un griot, tu peux te déplacer tout seul, te voir toi-même, c'est toi. Bon, je suis venu te demander de l'argent parce que je n'ai pas l'argent, je suis venu te demander de nourriture parce que je n'ai pas de nourriture chez moi. Bien, je suis venu te demander, tu me donnes des habits, je n'ai pas d'habits chez moi. Bien, si toi tu as quelque chose dans la famille, tu m'appelles, tu me dis, donc je prends le tam-tam et puis je me balade en ville. Et je joue, je dis à les gens que ouais, le jour que toi tu as organisé quelque chose, on doit faire ça. Bon, c'est nous, on a le rôle de griot, c'était comme ça. Ou bien s'il y a pas là dans une famille, dans un pays, c'est le griot qui s'élève d'aller finir ces palabres-là. Bon, ce que nous, on peut faire pour sensibiliser les gens dans les chansons, en tout cas, moi, il y a beaucoup de artistes qui font les morceaux pour la paix, et moi aussi, je fais pour moi pour la paix. Mais effectivement, c'est pas bon, c'est grave, parce que ça amène des problèmes dans un pays. S'il y a des guerres, il n'y a pas l'argent. S'il y a des guerres, il n'y a pas paix. S'il y a des guerres, on ne se sent pas bien, quoi, tu vois. Si tu regardes, on a fait 3 mois. On fait pas, et les griots et les artistes, on s'anime pas. On a l'état d'urgence, personne n'a de l'argent, personne ne sort que tu veux. Donc tu penses à quoi ça, la guerre n'est pas bon. Donc nous, on n'est pas habitués, Mali n'est pas habitué dans ce problème-là. L'album s'appelle Moroya, Bimoroya. Bimoroya parce que aujourd'hui, la personne d'aujourd'hui, ils sont mauvais. Quand on te voit, on te rencontre, on parle bien devant toi. Mais quand tu donnes ton dos, et on parle mauvais de toi. Bon, ce que j'ai dit, c'est hypocritique. Bon, moi, je ne peux pas faire ça. Donc je composais des morceaux là, Bimoroya.
Le musicien et griot Soumaïla Kanouté. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Josèle Morissin. À la console, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Soumaïla Kanouté et son titre Bimogo. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Bimogola moni finyate la bana Aïche. Sisa mogola Adama yate la bana. Bimogola moni finyate la bana Madame Ben. Bimogola Adama yate la bana. Anyu manfo nyala jugu manfo nko. Oh, mogoya. And you man for Nenya, you man for Ko Aisha. Sumi Sirani Adamaya Wanya. Aisha Baba Yawa. From the Baba Yawa, Wolonila. Aisha Baba Yawa. Dinner Bakulubani, Wolonila. Aisha Baba Yawa. Hit the Ravare, Nufana Wolola. Aisha Baba Yawa, Nima. Sumutukuna Wolonia, Wolibodi Woody. Iya manuyo nana musu masani su Dubai musu mina baba Aisha bala yo name Madam Beng kobena tumale ala nikila ni fana molo masuruna fatagina nde yisuruna bere tenena papa na Aisha bala yo Sulumani koro ibora mo gomu no menyana lu fana yo no haluki mama fakuli kumba fakuli daba ajamenya koli koli barama ani koli baranda bula mudu mudu bula nu fanyada bula wara wara o bula ni fanyara fakuli kumba fakuli daba ajamenya koli Dubai kanula musumina mama Aisha bala yo ala misona sijani kenya ne kolami nyenjalami ntolo ne sirani adama yani Anyu manfo nyala jugu manfo nko Oh, mogoya.